Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Thierry Benstingel qui publie Il déserte, un roman chez Fayard. Il déserte, dit le pompiste, et vous comprenez, il déserte. De livre en livre, Thierry Benstingel, une quête qui se développe et qui s'approfondit, une tentative de réappropriation, peut-être, de petites choses perdues, la vie par exemple, et aussi le désir de résister à tout ce qui peut effacer l'individu derrière sa fonction sociale. C'est ce que racontait Ionesco, le général qui couche avec son uniforme. Et pour cela, il faut, selon vous, se réapproprier le langage. Il y a d'ailleurs dans Il déserte une petite phrase à un moment qui ne doit pas tomber dans les oreilles des sourds que sont vos lecteurs. Aucun métier, écrivez-vous, ne peut être exercé sans la valeur d'une parole.
Oui, absolument. Absolument. C'est vrai que Il déserte, en fait, c'est le roman d'une sorte d'immense malentendu, comme le désigne d'ailleurs le titre. Il déserte, et on comprend Il déserte. Et c'est l'immense malentendu que l'on trouve dans cette société moderne, où le discours oral, notamment, est substitué, où on confond les mots, où on confond les sens, notamment. Et donc c'est pour ça que, à l'intérieur de ce malentendu, effectivement, tout ce que peuvent raconter les individus dans la vie moderne ont toujours un contresens. Donc c'est véritablement, sans doute, c'est ce que vous dites, c'est ce que j'essaie de chercher de livre après livre. C'est finalement quelle est la valeur de la parole, et j'ai l'impression que la valeur de la parole s'amoindrit au fur et à mesure des années. On en prend moins de, elle a moins de, à la fois de sens, mais aussi également de valeur, presque de valeur marchande, par exemple.
Le vrai commerce n'est possible qu'avec les mots.
Voilà, le vrai commerce n'est possible qu'avec les mots, et en cela, on pourrait presque rejoindre justement, finalement, Arthur Rimbaud, qui a eu cette double casquette d'être à la fois poète et de devenir après négociant. Et donc de faire commerce, et on peut dire également de ses mots, en créant par exemple une correspondance, puisque derrière c'était le seul moyen qu'il avait de se réapproprier cette langue qu'il avait passionnément aimée et qu'il ne pouvait redire qu'à sa famille et aux autres employés de commerce qui étaient avec lui. Et puisqu'il était dans un pays étranger, au Harare et à Aden.
Rimbaud qui est là en creux dans votre roman.
Voilà, absolument. Rimbaud est là en creux, et c'est, bien entendu, c'est évidemment volontaire. Rimbaud est là en appui tout le long du livre. C'est lui qui donne en quelque sorte le ton des mots. Et il donne le ton des mots à quelqu'un qui s'est pris de passion pour lui, qui est l'ancêtre, celui qu'on nomme l'ancêtre, donc on le nomme par sa fonction. C'est-à-dire c'est le plus vieux de l'entreprise, c'est un VRP qui a contribué à fonder l'entreprise. Et c'est un passionné des mots, ce VRP. Il sait la valeur de la parole, justement, dans ce monde du commerce. Et pour lui, Rimbaud, c'est véritablement celui qui lui ressemble le plus, finalement. Mmh. Hein, finalement, il est parti à un moment donné de l'autre côté. Il est devenu négociant. Il est devenu une sorte de VRP. Et il essaie de se le réapproprier pour lui.
Votre VRP, qui est surnommé l'ancêtre, oui. On l'appelle aussi quelquefois l'ours. L'ours, qui est une bête sauvage, comme on sait, ce qui nous rappelle le titre de votre roman précédent, « Retour aux mots sauvages ».
Oui, absolument. Alors, il y a forcément quelque chose de sauvage, y compris dans la façon dont cet ancêtre vit, un peu en ermite, un peu comme une sorte d'ours, qu'il serait un peu écarté du monde, mais le monde sauvage, on le retrouve aussi dans son environnement, c'est-à-dire dans la route. C'est un VRP, donc il fait énormément de routes. Et finalement, est-ce que la route que l'on traverse, est-ce que les autoroutes, qui sont pourtant bien normées, avec des barrières, etc., est-ce que ce n'est pas une sorte de sauvagerie qui tendrait finalement à échapper à notre imaginaire ? Mmh. Et il est toujours persuadé de cette... il est toujours balancé, en fait, dans cette réalité, à la fois d'un monde qui est voulu par l'homme, qui est effectivement bien domestiqué, mais qui tend à devenir quelque part complètement sauvage.
Sur sa route de VRP, celui qu'on appelle l'ours, mais oui. Qui est aussi une sorte de loup, va rencontrer le petit chaperon rouge en la personne de la nouvelle responsable, une jeune femme oui. Qui a une mission. Précisément, c'est de s'attaquer au loup.
Voilà, absolument. Donc cette jeune VRP, enfin c'est pas justement une VRP, c'est la responsable de l'équipe de VRP. Et elle découvre que sa première mission sera justement de virer cet ancêtre. Et alors donc effectivement, il faut se mettre à sa place de cette jeune VRP, c'est son premier véritable poste. C'est-à-dire qu'avant, elle a fait des études de commerce assez pointues, mais son premier poste, finalement, c'était chef de rayon dans une grande fabrique d'articles de sport, par exemple. Mais elle a eu aucune responsabilité. Et là, on lui donne soudain cette responsabilité qui est sauvage, justement. On peut dire aussi que celle-là est très sauvage. C'est de pouvoir virer quelqu'un qu'elle ne connaît pas.
Et qui, en plus, a d'excellents résultats.
Voilà, et qui, en plus, a d'excellents résultats. Donc, c'est envers et contre tout ce qu'elle a appris, c'est-à-dire à la fois son propre ressenti à elle. Pourquoi moi, jeune arrivé, je dois virer le plus vieux de l'entreprise? Et puis, pourquoi moi, qui ai fait des études de commerce et qui sait très bien, en fait, ce que représente un chiffre d'affaires à l'intérieur d'une entreprise, et qui sait que je vais être évalué à travers ce chiffre d'affaires, il faut quelque part que je me sépare de la personne et que je remette en cause, en fait, toutes les théories que, finalement, j'ai apprises.
La première fois qu'elle le rencontre, elle trouve qu'il a un regard de noyé.
Oui. Oui, alors, c'est un... Voilà, c'est ça, c'est... Elle trouve qu'elle n'a pas de prise, finalement, sur lui. Elle aurait aimé trouver quelqu'un qui soit un peu vindicatif, qui soit pour que ce soit plus facile pour lui faciliter la tâche, pour qu'elle puisse plus facilement le mettre à la porte. Mais non, finalement, il lui semble un peu perdu. Et comme elle vient d'arriver et qu'elle est également perdue, donc du coup, ça la déstabilise énormément.
Qu'est-ce qu'il vend, ce voyageur de commerce ?
Alors, il vend des papiers peints. Et ça, pour moi, c'est quelque chose auquel je tiens énormément parce que les papiers peints se substituent en quelque sorte à ce décor extérieur qui est constitué par sa route, donc qu'il ne maîtrise pas. Et lui, en même temps qu'il traverse ces espèces de grands paysages dans son univers de VRP, eh bien, il vend un décor intérieur, il vend des espèces de choses pour habiller les maisons. Il fait ça depuis 40 ans. Et il sait que, finalement, il arrive à vendre ses papiers peints parce qu'à un moment donné, comme c'est un passionné des mots et c'est un amoureux des mots, il se donne cette espèce de challenge, on pourrait dire, pour parler comme les entreprises, il se donne cette espèce de challenge de démontrer la beauté d'un papier peint qui unit, par exemple, de le démonter uniquement avec la puissance de ses mots. Et c'est ce qui a fait, d'ailleurs, sa réputation.
C'est ce que d'ailleurs le directeur appelle ses conneries, c'est-à-dire cette volonté de vouloir absolument démontrer la beauté du papier peint. Mais en fait, lui, c'est sa clientèle, il l'a constituée comme ça. Ce que veulent les gens, c'est pas forcément acheter des papiers peints, c'est grossir. Ce qu'ils veulent, c'est entendre une belle histoire. C'est ça.
Mmh. Mais le décor extérieur a bien changé. Les grandes enseignes tapageuses ont remplacé les petits commerces qu'il avait l'habitude de fréquenter.
Voilà, c'est ça. C'est aussi, donc on a à la fois ce balancement entre ce décor extérieur qui a changé. On est maintenant à la périphérie des villes. Et d'ailleurs, souvent, quand il circule, il ne reconnaît pas les endroits qu'il est passé, enfin, dans lesquels il est passé il y a longtemps. Et ses premiers clients qui se trouvaient au centre des villes, maintenant ont immigré à la périphérie. Et en même temps, son décor intérieur à lui, les papiers peints, ont également évolué. Avant, dans les années 70, il vendait des papiers peints à ramage, etc., en orange, en jaune criard. Et maintenant, il vend des choses qu'il trouve des fois à la limite de l'absurde, c'est-à-dire des papiers peints, par exemple, blancs, qui imite même les traces de spatule du plâtre, par exemple, ce qui est un peu le comble de la redondance, en quelque sorte, pour décorer un mur.
Derrière le penchant pour les mots de cet homme, l'ancêtre, il y a un certain sens du temps. C'est un homme qui, justement, parle parce qu'il prend son temps.
Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, cet homme-là, il est rentré à 18 ans comme VRP, et il est rentré dans une espèce de mécanique où il a pris son temps pour se constituer un réseau, pour rencontrer les personnes, où il a pris son temps pour argumenter, pour poser ses mots, et il n'a pas varié d'un iota. Ce qui fait qu'à un moment donné, même sa vie, finalement, c'est en quelque sorte désagrégée. Il a fini par quitter sa femme, ou sa femme plutôt l'a quitté d'ailleurs, en disant « Allez, je pars en goguette ». Là aussi, c'est aussi un beau mot que lui, qu'il a trouvé finalement plutôt charmant. Et que sa femme s'en aille comme ça, ça ne l'a pas... il a trouvé ça un mouvement plutôt naturel de sa part, puisqu'il avait été en quelque sorte son boulet. Et donc, ces ensembles de... voilà, c'est ça, c'est ces ensembles de mots qui... Il a pris son temps finalement et il arrive finalement à la fin de sa vie de VRP en ne l'ayant absolument pas vu passer et il n'a pas envie d'ailleurs de s'en aller du tout.
Mais il déplaît.
Il déplaît en haut lieu parce que le monde du commerce est impitoyable. Et justement là, on ne vend plus du papier peint comme ça. Maintenant on vend ce qu'on appelle dans le marketing des concepts globaux. C'est-à-dire qu'avec du papier peint, on va y adjoindre tout un décor. On va y adjoindre, par exemple, un canapé. Et pour lui, ça lui déplaît énormément de vendre des canapés parce qu'il trouve que c'est une sorte de régression. Il a un raisonnement qui est très simple. Il se dit, l'homme n'a pas mis des millions d'années pour arriver à se tenir sur deux pattes debout pour qu'il puisse s'avachir, finalement, au final, dans une espèce de canapé confortable qu'on lui aura mis à sa disposition et se laisser aller dans cette espèce de position assise. Pour lui, un homme, c'est d'abord quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui est dans le mouvement.
Vous avez l'air, Thierry Benstingel, de bien connaître la question des VRP et du papier peint. Vous êtes documenté ?
Alors, c'est le cas de le dire, je me suis documenté sur les papiers peints. Enfin, les papiers peints m'ont toujours passionné, mais au sens du décor, finalement. De la même façon que le décor extérieur, finalement. Quand on rentre quelque part, j'ai l'impression qu'on s'intègre, nous, en tant qu'individus, à l'intérieur d'un décor global, et les papiers peints en font partie. Et très facilement, j'ai l'impression que ce n'est pas nous qui ressortons à l'intérieur d'un décor, c'est le décor qui nous englobe. Et c'est pareil pour les décors. Quand on rentre, enfin moi je fais beaucoup de kilomètres, je suis un peu comme les VRP, donc je connais bien aussi cette problématique. On rentre dans le décor, et c'est vraiment au sens littéral. C'est-à-dire qu'on rentre dans la route, on est avalé dans les kilomètres, et on ne sait plus à un moment donné qui on est, en quelque sorte.
Alors vous parliez de la femme, de l'ancêtre.
Oui.
Mais il a aussi un fils.
Oui.
Qui, comme par hasard, fait le même métier que lui.
Oui.
Mais c'est la génération suivante.
Voilà, c'est ça. Et c'est à son grand désespoir, d'ailleurs, parce qu'il a l'impression que son fils reproduit, en quelque sorte, les mêmes pas forcément les mêmes erreurs, mais le même schéma que lui a eu, c'est-à-dire cette espèce de vie qu'il aura traversée en se demandant si finalement, à la fin de ses 40 ans de VRP, s'il n'a pas rêvé finalement, si tout ça, si c'était pas une fiction. Si finalement, en quelque sorte, est-ce que ce n'est pas le décor qui l'a attrapé? Et comme son fils pratique exactement le même métier, qu'il a exactement les mêmes travers. Hein. Les VRP, c'est un monde de paroles. Et c'est un monde de paroles, quelque part aussi, de paroles fausses, en quelque sorte. Il faut se vanter, en quelque sorte. Il faut aussi pouvoir démontrer qu'on est le meilleur, qu'on est capable de vendre mieux que les autres aussi. Donc c'est un monde de paroles qui ne sont pas toujours fausses. On est là encore dans le malentendu.
Voilà donc deux VRP,
oui,
qui font le même métier, qui ont la même expérience et qui n'ont rien à se dire.
Voilà, exactement. Exactement. Là aussi, on est Je crois que tout a été dit finalement entre eux, peut-être. Ou plutôt, rien n'a été dit entre eux. Je crois que ce vieux VRP, quand il revenait chez lui, il avait l'impression également de faire partie d'un décor global. Une belle maison, une épouse attentive, des enfants. Et lui, il arrivait en fin de semaine, il s'intégrait, malgré lui, à ce décor. Et il ne trouvait pas forcément grand-chose à dire. Et je crois qu'il est resté dans le silence vis-à-vis également de ce fils. Et il retrouvera en quelque sorte une parole après coup, largement après.
Oui, mais pour le moment, il n'est pas dans le sens de l'histoire.
Voilà, il n'est pas dans le sens de l'histoire.
Et la nouvelle responsable des ventes, cette jeune femme dont nous parlions, a la mission de le licencier. Elle ne sait pas tellement bien comment s'y prendre. Elle envisage plusieurs options.
Oui. Oui, alors elle envisage plusieurs options. Elle aimerait bien déjà qu'on le paye à sa juste mesure. Elle aimerait bien aussi se séparer de lui, c'est bien, mais aussi, il faut pouvoir réembaucher, par exemple. Mais ça, elle se rend bien compte que non, ce n'est pas possible. Donc, elle se rend bien compte qu'elle va devoir véritablement tirer un trait sur l'ancêtre. Et plus elle arrive vers cette échéance la refroidit, puis plus elle la trouve, évidemment, énormément inhumaine.
C'est quelqu'un qui lit, hein, cette jeune femme, c'est une intellectuelle.
Oui.
D'ailleurs, chez elle, sur une étagère, elle a gardé quelques-uns de ses livres d'étudiante, dont Conditions de l'homme moderne de Hannah Arendt, où on trouve notamment cette phrase, hein, tout ce qui est produit par l'homme peut être détruit par l'homme et aucun objet d'usage n'est absolument nécessaire.
Oui, oui, alors c'est vrai que c'est une phrase que j'ai découvert quand j'ai lu Conditions de l'homme moderne et je travaillais déjà, et c'est une phrase qui m'a complètement refroidi. Et je me suis posé la question, si j'avais fait des études avant et si j'avais lu Conditions de l'homme moderne avant, est-ce que je serais rentré dans cette entreprise? Et j'ai voulu que cette jeune responsable des ventes ait exactement la même démarche. C'est-à-dire qu'elle a été amenée, à travers ses études, évidemment, non pas à renier un certain nombre de ses lectures, mais à les mettre de côté. Et notamment, ce Hannah Arendt, qu'elle avait énormément apprécié, elle l'a mis un peu de côté et là, elle le redécouvre en se disant, mais est-ce que finalement, là où je travaille, je suis en train de faire, Hannah Arendt parlait de l'homo faber, celui qui fait, mais qui défait aussi. Je suis en train de faire, je suis en train de défaire aussi ce qu'a construit l'ancêtre, ce qu'a construit cette entreprise. Et ça, évidemment, ça la fait peur. Alors, ça lui fait peur. Et bien entendu, ce sera un point, cette lecture, cette façon d'envisager la culture, de la réapproprier, ce sera aussi un point qu'elle aura en commun avec cet ancêtre, notamment avec Rimbaud.
C'est une solitaire, cette jeune femme.
C'est une solitaire.
Elle a bien une amie, mais elle est loin, dans une île.
Voilà,
une
c'est ça. Déserte. C'est ça. Donc là aussi, c'est aussi une question d'île. Elle a une amie qu'elle a rencontrée en allant au Cap-Vert, qu'elle retrouvera par hasard un peu après. Mais là, c'est une solitaire, simplement parce qu'elle n'aime pas forcément la solitude. C'est simplement son poste qui fait qu'elle arrive dans une ville étrangère, elle doit se trouver un logement et puis elle doit se faire des nouvelles relations à l'intérieur de cette entreprise.
Pas d'amoureux?
Non, pas d'amoureux. Elle a toujours connu, non pas que des échecs, mais elle n'a pas eu la place finalement pour les laisser parce qu'elle a toujours été à vouloir faire ses preuves, en quelque sorte, en tant que métier. Dans son métier, elle voulait absolument faire ses preuves. Quand elle travaillait comme chef de rayon, elle travaillait 6 jours sur 7, de 8h à 20h par semaine. Elle trouvait ça tout à fait normal. Donc, elle n'avait pas la place derrière pour pouvoir développer une relation.
Mmh. Il lui restait juste quelques minutes avant de s'endormir pour lire Anna
Arendt. Voilà, le temps de mettre un surgelé dans le micro-ondes et de lire Anna Arendt.
L'ancêtre aussi, par la force des choses, c'est un solitaire. Mais lui, il a un véritable compagnon de route, ce poète dont nous avons cité le nom à plusieurs reprises, Arthur Rimbaud.
Oui, alors pour lui, c'est véritablement un compagnon. Il emmène partout sa correspondance.
C'est son alter ego, presque.
Voilà, c'est son alter ego. Et quand il a des clients à Charleville-Mézières, et quand il va à Charleville-Mézières, d'ailleurs, il va se recueillir sur sa tombe. Ce qui fait beaucoup rire d'ailleurs les autres VRP qui l'accompagnent, parce qu'à un moment donné, il a eu un rôle de formateur de jeunes VRP. Et donc, il les laissait à l'entrée du cimetière, lui, il les laissait recueillir sur la tombe, et après, il les reprenait, ce qu'il trouvait ça un peu aberrant. Mais en même temps, je voulais montrer aussi comment la culture est complètement disjointe, finalement, du travail. Alors qu'en réalité, elle n'y est pas tant que ça. Il suffit de se promener dans n'importe quelle entreprise. Les gens s'échangent des livres, les gens parlent des films qu'ils ont vus le week-end. Donc, pourtant, on fait comme si c'était deux mondes qui étaient radicalement disjoints et différents. Mmh.
Pour lui, en tout cas, Rimbaud, c'est pas rien. Hein, il s'est procuré tous les livres de Rimbaud, bien sûr, mais aussi sur Rimbaud, ce qui en fait un certain nombre. Et Tiamble nous l'a bien montré.
Oui. Oui, oui, c'est ça. Il a voulu véritablement approfondir ce personnage de Rimbaud et rentrer au plus profond de sa vie. Mais ce qui lui plaît encore le mieux, c'est sa correspondance et sa correspondance commerciale.
Voilà.
Il aurait aimé, en quelque sorte, échanger aussi avec des autres VRP, des correspondances à la Rimbaud.
Il s'imagine même lui-même recevoir parfois une lettre de Rimbaud.
Oui, oui. Oui.
Pensez que le commerce peut être l'avenir de la poésie.
Je ne sais pas si c'est l'avenir de la poésie, mais en tout cas, le commerce est un monde de mots, de toute façon. C'est un peu comme la poésie, finalement, quand on présente à un client un produit, on a 3 minutes pour convaincre, en quelque sorte, et que le client signe le bon de commande. Lire un sonnet, c'est pareil, c'est en quelques strophes, on doit convaincre.
Mmh. Alors évidemment, dans le roman, vous avez soigné la rencontre entre l'ancêtre et cette jeune femme qui est censée vouloir sa perte. Elle pense que la première chose qu'elle a à faire, en effet, c'est de le voir avant de prendre toute décision. Et elle va se retrouver dans sa voiture, qui est une voiture de fumeur.
Oui. Oui, alors c'est effectivement, elle s'aperçoit que ce sont deux mondes radicalement différents. Elle, c'est plutôt quelqu'un de sportif. Et lui, c'est quelqu'un qui s'est laissé aller pendant des années dans les restaurants, dans les étapes VRP, et a fumé beaucoup, etc. Donc ça la déstabilise en quelque sorte. Ça accroît son malaise, oui.
Elle n'arrive pas à parler.
Non, oui, absolument, elle n'arrive pas à parler. Et là, on est toujours aussi, on est à l'orée du malentendu. Cette fois-ci, on n'est plus à confondre les mots, on est dans la parole qui ne vient pas.
Lui, il parle, il est plutôt bien, sa voix même est agréable. Et en plus, la jeune femme le remarque tout de suite, il sait raconter les histoires.
Oui, 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 c'est ça. Et elle se trouve justement à côté... En quelque sorte, c'est de quel droit, moi qui n'ai pas la parole, de quel droit je pourrais mettre à la porte quelqu'un qui aurait une parole qui me paraîtrait plus vraie que la mienne. Et c'est véritablement son combat, en quelque sorte. Et je pense que ça va énormément jouer dans la décision qu'elle prendra.
Oui, parce que lui, il est très direct. Il fait savoir qu'il ne veut pas partir, qu'il attendra... la dernière limite pour prendre sa retraite.
Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement honnête. Donc, il préfère, dès le départ, dès sa première rencontre, lui dire non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais pourquoi vous êtes là. Et je vous le dis tout de suite, passons à autre chose. Discutons d'autre chose. Discutons de Rimbaud, pourquoi pas. Mais moi, je vous dis tout de suite, je ne partirai pas. Donc, changeons de sujet.
Il refuse de partir.
Voilà, il refuse de partir.
Est-ce qu'il est nostalgique ?
Non, c'est pas quelqu'un de nostalgique, c'est simplement quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt de partir. Il a envie de continuer comme ça parce qu'il ne sait pas sortir de cette fiction qu'il s'est constituée par 40 années de route.
Seulement, voilà, la décision en haut lieu a été prise.
Oui.
Et la direction ne reviendra pas dessus.
Non. Et c'est au grand drame, d'ailleurs, de cette responsable des ventes. Qui va devoir le licencier. Là, elle est à l'extrême limite. Et elle va devoir le licencier.
Alors Ce qui devait arriver arriva.
Voilà, ce qui devait arriver arriva. Mais dans les belles histoires, comme peut le raconter ce VRP, il y a toujours quelque chose, un élément qui arrive. Et là, je ne vais pas raconter l'histoire, mais il va arriver un coup du sort assez extraordinaire qui fait qu'elle n'aura pas besoin finalement de le licencier.
Le coup du sort, c'est qu'il s'en sort.
Voilà, le coup du sort, c'est qu'il s'en sort et qu'il va sortir de lui-même, de l'entreprise.
Il reviendra de loin.
Voilà, il reviendra de loin, oui. Ouais, exactement.
Après avoir erré dans l'entre-deux-mondes.
Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas si... Enfin, j'ai pas envie véritablement de raconter ce qui lui arrive. Parce que je trouve que ce serait... C'est intégré au hasard. Et le hasard, on le connaît pas 5 minutes avant. Donc, je n'ai pas envie forcément de le raconter. Mais disons, on peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'il... Il rentre dans un monde qui ne lui appartient plus et il va avoir véritablement cette prise de conscience et il va se dire à ce moment-là, c'est le bon moment pour moi de partir. Voilà, il a cette prise de conscience, il se dit finalement, il sort en quelque sorte de sa fiction qui s'est constituée et il rentre à nouveau dans le monde réel.
Et lui qui reliait les papiers peints comme des livres,
oui,
comme si c'était des livres, va se donner un nouveau projet de vie.
Voilà, exactement. Il va se donner un nouveau projet de vie. Et en fait, le dernier chapitre, ce sera une rencontre complètement impromptue entre ces deux personnages qui auront fait chacun leur vie séparément de leur côté. Et cette jeune responsable des ventes qui n'y sera plus au moment où il le rencontrera et lui, il sera plus VRP. Ils vont se rencontrer 4 ans plus tard. Et à ce moment-là, ils vont reprendre contact et ils vont se raccrocher tous les deux à un projet commun et ce sera un projet qui sera évidemment, qui tombera sous le sens, qui aura un rapport très étroit avec les mots et avec Rimbaud.
Qui soulignera cette valeur des mots dont nous parlions au début de cette émission. Et tout d'un coup, c'est une nouvelle île déserte qui apparaît sur la...
Voilà, c'est ça. Territoire. C'est une nouvelle île déserte qui apparaît. Et là encore, cette fois-ci, c'est plus un malentendu entre eux. C'est-à-dire tous les deux avaient compris, chacun de leur côté, d'une façon différente, ce que voulait dire l'île déserte. Et là, à la toute fin du livre, tous les deux se réapproprient ce mot, finalement, qu'ils avaient perdu tout au long du livre. Ils finissent par se le réapproprier dans un sens commun, avec un projet commun. Alors c'est peut-être une fin un peu idéale, mais je crois profondément qu'on a besoin de rêver et de se dire que du pire qui pouvait arriver au départ, hein, c'est-à-dire devoir avoir cette violence entre deux personnes qui devaient se séparer, enfin, tout les amenait finalement à devenir extrêmement violents l'un envers l'autre. Finalement, là, ça n'aura pas lieu. Simplement parce que, par moment, il faut faire aussi un peu confiance au hasard. Et puis surtout, confiance aux mots.
Donc le combat va cesser, faute de combattants.
Exactement.
Ça sera la paix retrouvée.
Voilà, ce sera la paix retrouvée entre deux. Et c'est ce que je voudrais véritablement qu'on comprenne à un moment donné. C'est-à-dire que... J'écris ce livre dans un monde qui est le monde de l'entreprise, mais ce monde de l'entreprise, c'est aussi un monde qui est extrêmement créatif. Par moment, on peut récupérer, par exemple, le pouvoir de dire non. C'est ce qui va se passer pour ces deux personnages. Et quand on dit non à un avenir qui est tout tracé. On s'ouvre d'autres perspectives qui peuvent être complètement diverses. Et c'est véritablement ce qui va leur arriver là, en quelque sorte.
Mais est-ce que l'ancêtre n'a pas perdu son identité d'ancêtre ?
Absolument pas. Absolument pas. Pour lui, il est exactement tel qu'il était. D'ailleurs, il le dit. Il dit qu'il a un peu, comme il a quitté son métier, il dit qu'il a un peu plus de temps. Mais il n'a pas changé pour autant. Il arrive toujours d'une façon complètement désordonnée chez son ex-femme, chez sa fille, chez son fils. Il continue un peu dans cette espèce de monde de route qu'il a toujours connu et qui constitue son fondement. Mais il a envers lui quand même l'ensemble de ses mots. Et notamment, il garde surtout les papiers peints qu'il a reliés soigneusement pendant toute une vie. Et pour lui, il les appelle ses œuvres complètes. C'est aussi une allégorie par rapport au livre, hein, c'est-à-dire c'est sa mémoire. C'est sa mémoire, et en regardant simplement un échantillon de papier peint, il est capable de se remémorer tous les mots qu'il a dit. Donc en quelque sorte, c'est un nouveau langage, c'est un langage que lui seul est capable de connaître. Et derrière, il peut développer tous les mots, tous les adjectifs qu'il a déjà emmagasinés.
Il déserte, le roman de Thierry Benstingel, est publié chez Fayard. Du jour au lendemain, Philippe Mercher, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir. Thank you.